Bonjour à toutes et à tous. Un sujet d'actualité toulousain, c'est le collectif d'architectes qui s'est organisé, qui s'est créé contre le projet de Toulouse Métropole, de la mairie de Toulouse, de détruire une grande partie des constructions du Mirail, du quartier de Toulouse le Mirail. Donc, ça fera l'objet de plusieurs émissions, parce que c'est un sujet qui est très important sur le plan patrimonial, sur un plan urbanisme, sur un plan évidemment de la ville des Toulousains, de ce qui de touche bien sûr, mais aussi c'est un problème beaucoup plus large parce que l'opération de Toulouse-le-Mirail est une opération qui a été en son temps célébré, connu et qui a eu une forte influence dans le monde architectural. Et quand je dis dans le monde, il s'agit dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous parler des mots pour le dire, des mots pour le dire de ces quartiers, de ces banlieues, les mots que l'on hésite à dire, et qui sont en fait ceux de notre quotidien par rapport à l'environnement, et c'est, comme vous le savez, le sujet de cette chronique. Donc tout d'abord, politique de la ville. Alors là, c'est vraiment assez étonnant. On parle de la politique de la ville, on pourrait parler de la politique de la ville comme s'agissant de toute la ville, l'agglomération toulousaine par exemple, et puis les villes moyennes, et puis les villes, c'est aussi les villages. Donc c'est la ville ancienne, c'est la ville qui s'est créée plus récemment, ce sont les extensions, c'est toute l'histoire urbaine, et on pourrait envisager qu'il y ait une politique par rapport à ces situations différentes qui sont les situations urbaines, les situations dans lesquelles la population vit. Mais il n'en est rien. La politique de la ville, c'est uniquement des quartiers qui sont limités. Quand on regarde la carte des métropoles, que ce soit Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Marseille, enfin toutes les villes, mais même Paris, si on regarde les quartiers entre guillemets en question, ils ne représentent qu'une faible partie de la superficie globale des villes et en fait aussi une partie assez faible des populations. Alors, ces politiques de la ville, elles ont maintenant 30 ans, ça a déversé des sommes assez incroyable sur ces quartiers, et il faut dire que la situation ne s'est pas beaucoup améliorée, mais ça fait partie aussi des mystères de la politique française. On ne fait pas de bilan et on continue à parler de politique de la ville et de toujours déverser cet argent sans faire le bilan de son utilisation et de sa bonne ou mauvaise utilisation. En fait, on peut dire que globalement, c'est quand même pas très efficace vu les problèmes qui perdurent. Et on pourrait dire, si on est alors soit pessimiste, soit lucide, qu'ils ne font que s'aggraver. Alors, je parlais des différents mots pour le dire. Donc, on parle des banlieues. Alors le terme des banlieues, mais les banlieues, tout le monde le sait, sont constituées par à la fois les villages anciens qui sont autour des grandes villes, qui existent depuis des siècles, et aussi les quartiers nouveaux, soit qui sont liés à ces villages, soit qui sont aussi, on peut dire, dans ces zones intermédiaires, avec aussi des créations d'emplois qui sont liées aux zones commerciales, industrielles. En fait, on peut dire que il y a une urbanisation de la France qui n'est pas, contrairement à ce que l'on peut penser, quelque chose qui est un raz-de-marée de béton. On en a déjà parlé dans cette émission, mais qui correspond peu ou prou à l'augmentation de la population française, on peut dire, depuis l'après-guerre. Donc, avec des vagues successives et certains choix qui ont été faits par les politiques diverses et puis aussi par les goûts des habitants. Alors, je vous disais banlieue. Bon, le mot banlieue est un mot qui, en France, est un mot péjoratif. On dit les banlieues, mais c'est assez surprenant parce que ces banlieues, elles sont évidemment très diversifiées. Et on a, par exemple, dans les journaux, et récemment c'était, je pense, dans Le Point, où il y avait les villes où il fait le mieux vivre. En fait, de quoi il s'agit ici? De quoi s'agit-il? Il s'agit des villages anciens, par exemple sur Toulouse. Donc on peut citer Rouffiat-Toulousan, Montgiscard, enfin d'autres communes, Pimbalma, etc. Et qui sont déclarés les villages de France où il fait le mieux vivre. Alors, on peut dire qu'est-ce que c'est qui fait la caractéristique de ces villages? Est-ce qu'ils ont des équipements urbains? Est-ce qu'ils ont une qualité de patrimoine incroyable? Des musées, des lacs, je sais pas, des choses qui sont appréciables, par exemple, au niveau touristique. En fait, il n'en est rien, et il faut le dire les choses assez crûment, il s'agit la plupart du temps, de la distance par rapport au fameux quartier entre guillemets, et aussi, il faut le dire, de populations dans lesquelles il n'y a pas de mixité parce que ce sont des villes avec une cherté de terrain, disons des transactions foncières qui sont très élevées et qui réservent cela à une catégorie que l'on peut qualifier de classe moyenne supérieure ou même de classe supérieure tout à fait. Bon, dans le cas de Toulouse, par exemple, tout le monde peut voir dans certains quartiers, il y aura bon, les professions médicales et aussi les ingénieurs d'Airbus ou de Matra, enfin des différentes usines qui font l'armature industrielle de Toulouse, et on aura, on peut dire, cette élite qui va habiter dans ces villes que l'on appellera donc les villes où il fait bon vivre. Donc, vous comprenez bien que je fais la distinction entre le bâti et entre les populations. Et c'est bien ça le cœur de cette chronique. Parce que quand on veut démolir des quartiers, on pense, et on pense à tort, que l'architecture est responsable de l'insécurité, que l'architecture est responsable de la violence, et qu'il y a un lien de causalité directe qui fait que si on démolit les immeubles qualifié par certains il y a longtemps, mais ça continue, de criminogène. Aujourd'hui, on va trouver aussi des raisons qui vont être d'ordre écologique, des bâtiments qui ne sont pas conformes à la réglementation. Évidemment, tout ça est fictif et on a des constructions qui sont de qualité, et je dirais même certaines de meilleure qualité que ce que l'on construit aujourd'hui. Alors, il n'en est pas de l'architecture comme des produits industriels. Par exemple, si on rénove un parc industriel de machines-outils, on a par exemple des machines-outils anciennes qu'il fallait régler à la main, et maintenant on les a avec des réglages informatiques, et il est évident que ça change la donne, comme d'ailleurs le matériel informatique que l'on peut avoir. On sait très bien que les ordinateurs d'il y a 20-30 ans, ils sont complètement dépassés, et on est bien obligé de les changer et de s'adapter aux nouvelles technologies. Mais dans le bâtiment, on n'est pas du tout dans cela. La preuve, c'est que les bâtiments anciens, qui n'ont pas du tout justement les conditions forcément de confort, de réglementation, d'isolation actuelles, ne serait-ce que par les matériaux qui ne sont pas biosourcés, etc., eh bien, ce sont souvent ceux qui sont les plus valorisés. Et heureusement, c'est quand même, c'est notre patrimoine avec aussi toute notre histoire constructive française et la grande qualité de notre patrimoine architectural. Et il ne s'agit pas, bien sûr, de l'éliminer comme on va mettre au rancard des vieux ordinateurs Apple d'il y a 30 ou 40 ans. Alors, bien évidemment, le problème de cette relation entre le bâti et les habitants est quelque chose qui fait partie de ces fantasmes. Il y a très longtemps que cela existe. Un exemple de Toulousain, c'était, j'en avais déjà parlé, mais je me répète, c'était l'immeuble Midifac qui était à l'entrée de la faculté du Mirail, aujourd'hui Jean Jaurès, et c'était un immeuble qui avait été construit par un bon cabinet d'architectes toulousain, l'atelier 4, et cet immeuble qui était tout à fait intéressant sur un plan architectural, et c'était un immeuble d'étudiants qui était à l'entrée de l'université. Et on peut dire que les dealers, et à l'époque c'était le début de la drogue, on peut dire, ça a pris depuis une ampleur beaucoup plus considérable et beaucoup plus organisée. Mais donc il y avait eu petit à petit les dealers qui avaient pris cet immeuble et chassé les étudiants, et c'était devenu effectivement un point d'échange, de ralliement entre qui était bien placé à l'articulation du Mirail, de la ville et de l'université. Et il y avait eu, dans des rixes entre dealers, il y avait eu quelqu'un qui avait été tué. Et donc, la solution qui a été trouvée, et l'article de la Dépêche trouvait ça tout à fait naturel, bien sûr, comme il y a eu un crime, eh bien, on va démolir l'immeuble. Et donc, cet immeuble, qui est un immeuble neuf et de qualité, a été démoli parce qu'il était devenu un immeuble repère de dealers et il y avait eu un crime. Alors, si on devait démolir tous les immeubles de notre patrimoine où il y a eu du crime, je crois qu'il ne resterait pas grand-chose debout dans notre beau pays de la France. Donc, on voit bien le ridicule de ces assertions, mais on peut dire que il en est de même dans ces projets de démolition. En fait, qu'est-ce que l'on veut? On va prétexter de la vétusté, et c'est totalement faux. Les immeubles, notamment du Mirail, ils ont des appartements de qualité, et de bien meilleure qualité, faits par des équipes d'architectes qui étaient créatives, compétentes, dans une époque aussi où il y avait certainement moins de contraintes réglementaires. Et donc, on va démolir des immeubles de qualité pour les remplacer par des immeubles qui le seront moins. Bon, voilà la réalité. Et tout cela sera payé par la collectivité, même si, au passage, il y aura des architectes, des bureaux d'études, des promoteurs, des agents immobiliers qui pourront, on peut, si ce n'est s'enrichir, en tout cas, bien se payer sur la bête. Non, tout cela n'est pas innocent sur un plan financier. C'est pour ça qu'il est important de mettre les choses à plat et de reposer ces problèmes. Alors, vous avez entendu lors de la campagne présidentielle qui est en train de prendre corps actuellement, on parle beaucoup de ces quartiers et je vais développer cela avec notamment aller plus loin dans l'explication de ces soi-disant ghettos. Alors on va faire une pause musicale, puis je vais reprendre le propos. I'm a beacon in the night. When it's dark, you see me shine. I ain't gonna live to stay alive. Love is gonna get me. Ooh, feels like I got my road again.
one they said it was a drug? Who the one that hit the stage high as fuck every day and give up? Bills green, do you know what I mean? Holla words don't matter, they got no color. Like a wheeze in a squeeze, squeeze every penny. Cause I can't fit my family with the Grammys. I used to be a wannabe industry stranger. Now I'm major independent, danger.
I'm a beacon in the night. When it's dark, you see me shine.
Alors, le mot ghetto est effectivement celui qui est employé pour les quartiers qui sont, en fait, il faut-il le rappeler, des quartiers qui ont été construits dans l'après-guerre pour les populations françaises. Alors, il y avait plusieurs phénomènes. D'abord, il y a eu un boom de natalité, tout le monde le sait, le fameux baby boom, en bon franglais. Et en même temps, il y a eu une mutation, on peut dire, importante, allant de la campagne vers la ville. Alors, il y avait d'une part l'industrialisation des usines et puis aussi un secteur tertiaire qui se développait à cette époque dans le début dans les années 50. Et aussi le phénomène de mécanisation de l'agriculture qui s'est intensifié, qui fait qu'on avait moins besoin d'agriculteurs et qu'on a eu donc cet exode rural vers la ville qui n'a pas continué, qui s'est arrêté, on peut dire, vers les années 75, mais qui a modifié d'une manière importante le paysage de nos villes. Donc on avait des villes aussi dans lesquelles il y avait des îlots insalubres très, très importants, mais alors l'insalubrité, elle était vraiment sévère. C'est-à-dire que dans les grandes villes, mais c'était à Paris, à Toulouse, il y avait une forte densité avec un manque total d'hygiène, d'assainissement, de WC, de salles de bain, tout ça a été assez catastrophique, et des conditions aussi d'ensoleillement très faibles, des appartements qui ne voyaient jamais le jour. Enfin bon, tout cela a fait l'objet de politiques de rénovation, de démolition, etc. On ne va pas revenir sur cela. Ce que je voulais dire, c'est que ces fameux grands ensembles qui sont aujourd'hui vilipendés ont été des logements neufs de qualité qui ont été offerts à des populations qui connaissaient pas ce confort. Ça a été un phénomène, on peut dire, très général et un phénomène très positif. Alors, à cette époque-là, contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui, où j'entends dire à la radio, à la télévision, les grands ensembles qui ont été créés pour les immigrés. Mais non, pas du tout. Ça a été créé pour les Français. Alors, que c'est bon, ces années 50, les fameuses 30 glorieuses, bon, qui n'ont pas été glorieuses pour tout le monde, mais enfin, qui étaient quand même un changement par rapport à surtout la période de la guerre que la France venait de vivre. Donc il y a eu un fort développement, les véhicules automobiles, un changement de vie, et puis des biens de consommation beaucoup plus généreux et on peut dire un enrichissement général de la classe moyenne. Donc cette classe moyenne qui a pu habiter ses logements et qui a eu le désir d'habiter vers la maison individuelle. Donc à ce moment-là, vers les années 60, et il y a eu l'immigration, il y a aussi eu l'immigration après les accords d'Évian de 62, à la fois des pieds noirs et à la fois aussi de populations autochtones, des territoires d'outre-mer, et aussi l'industrialisation et une forte arrivée d'immigration. Donc il y a eu un transfert de population où les Français sont partis habiter dans les lotissements, dans les maisons, et puis laissant des logements libres qui ont été occupés par ces populations qui arrivaient. Donc, quand on parle aujourd'hui de ghetto, et quand on parle aujourd'hui aussi d'assignation résidence pour ces populations, bah écoutez, si c'était vrai, c'est-à-dire que si les populations qui avaient habité là à la construction, alors ne parlons même pas des années 50, mais les années 60, aujourd'hui ce ne serait pas des jeunes gens et ce ne serait pas du tout la population que l'on voit justement habiter aujourd'hui. On aurait plutôt des personnes âgées et une population qui serait infiniment plus tranquille et effectivement pas du tout la situation qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait, ce terme de ghetto est totalement impropre. Je pense qu'il est insultant de plus que pour, faut-il rappeler, ce qu'étaient les ghettos et ce qu'a été l'histoire du ghetto de Varsovie et dans notre histoire mémorielle récente. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger et quelque part aussi affadir quelque chose qui était historiquement justement cette ségrégation de l'antisémitisme et qui a produit aussi qui a produit la Shoah et c'est quelque chose dont c'est des mots que l'on ne devrait pas employer. Donc en fait, c'est, non seulement on ne devrait pas les employer pour ces raisons historiques, mais de plus, c'est totalement faux, puisque c'est, contrairement à ce que l'on dit, il n'y a pas d'assignation à résidence et il n'y a pas non plus la faute des bailleurs sociaux qui auraient entassé la misère et mis les gens dans leur communauté d'origine. C'est pas du tout ce qui se passe et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc simplement, il y a eu des populations nouvelles qui arrivaient et des logements qui s'est libérés. Et c'était la nature à horreur du vide, donc c'était la logique même. Je vois pas très bien qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à la place. Et aujourd'hui, faut-il le rappeler, il y a un très grand mouvement permanent dans le secteur du logement social et il est tout à fait possible à tous les gens qui sont logés dans ces logements de faire des demandes de mutation et personne ne s'en prive. Donc il y a en fait un brassage de population, mais il y a aussi des regroupements qui se font et qui se font, on peut dire, par atavisme, par des gens qui arrivent de l'immigration, ils préfèrent se retrouver avec des gens de leur propre pays, et même des mêmes religions, et effectivement, les bailleurs sociaux sont des fois inquiets, parce que ça se place à leur insu, et notamment les regroupements salafistes qui peuvent se produire autour justement de réseaux clandestins, de réseaux terroristes. Enfin, ça c'est une réalité que l'on vit. Donc je ne vois pas très bien pourquoi on incriminerait les bailleurs sociaux ou les politiques de ce pays par rapport à un phénomène qui n'a rien à voir avec tout cela. Donc la solution qui est de la démolition est évidemment une absurdité, parce qu'en fin de compte, les gens seront relogés à grands coups et ce sera les problèmes qui sont des problèmes humains et qui ne sont pas des problèmes de bâtiments seront identiques. À moins que, évidemment, et je vais faire de l'humour noir, de penser que la démolition le fera avec les habitants à l'intérieur. Auquel cas, oui, effectivement, le problème sera réglé. Mais, excusez-moi de cette mauvaise plaisanterie, mais le problème est un problème humain, et donc ce n'est pas un problème architectural. Il est vrai que les architectes aiment bien aussi se sentir responsables de la vie des gens de penser que, en bien ou en mal, évidemment, chacun pense qu'il a la solution pour améliorer les choses, mais en fait, l'architecture n'y est pour peu de choses. Il est évident qu'il vaut mieux vivre dans des immeubles, des maisons qui sont agréables, mais si vous avez des belles terrasses plantées et d'un grand appartement, et si en bas vous avez des dealers qui vous pourrissent la vie, je veux dire, la terrasse et des gens qui font de la musique toute la nuit avec des vacarmes et des tirs de Kalachnikov au lointain, je pense que votre quiétude et la qualité de votre architecture, vous ne l'apprécierez pas très bien. Donc le problème est, encore une fois, un problème social. Alors je n'ai pas ni la compétence de trouver la solution à ces problèmes qui ne sont pas du tout dans la chronique, mais on peut quand même se poser quelques questions. Alors la solution qui est avancée en disant c'est la mixité sociale. Alors ça fait la fameuse mixité sociale qui serait la solution à tous les maux de la société. Alors, c'est quelque chose qui est un peu curieux parce que on a deux moyens de faire la mixité sociale. Ce serait effectivement de dire on va mettre les riches chez les pauvres. Je caricature, bien sûr, c'est-à-dire qu'on dirait on va mettre au Mirail, on va réserver des appartements, alors ça justifierait la démolition, on ferait les immeubles chicos et on dirait regardez, il va y avoir de la mixité sociale, donc les riches vont influencer vont donner une bonne influence sur ces méchants dealers et immigrants, etc. Bon, c'est évidemment, c'est probable parce que d'abord, personne ne voudra y aller. On fait la solution inverse comme à Paris ou même dans les opérations aujourd'hui à Toulouse où on impose un quota de logements sociaux dans les opérations. C'est, je crois, le tonneau des Danaïdes, on n'arrivera jamais à faire cela. Et puis, qui paie cela, on va prendre les logements des beaux quartiers, dans le quartier du Grand Rond, et mettre des logements sociaux. Bon, ça profitera à certains, comme c'est le cas dans la plupart des logements urbains, on peut dire, sociaux, mais en fait, le résultat par rapport aux problèmes qui étaient posés, et notamment les problèmes de délinquance et les problèmes de l'économie parallèle de la drogue avec ses dangers, évidemment, n'est pas posé comme le problème des quartiers qui sont islamisés avec le fait que les populations on peut dire non autochtones sont poussés vers l'extérieur. Donc cette mixité forcée ne serait valable que dans un régime totalitaire. Et on sait très bien que ce que ça a pu produire dans, par exemple, Staline, qui déplaçait des populations au gré de ses envies pour des raisons politiques et de totalitarisme. Donc on n'a absolument pas cette possibilité. Alors il y en a d'autres, la mixité effectivement qui peut être efficace dans l'éducation, dans l'école, dans le travail, les recrutements, là c'est évidemment un problème autre, mais dans le logement, dans un pays démocratique, je ne vois pas comment on peut imposer aux gens la place de leur imposer où habiter, ça me paraît totalement impossible. Donc cette histoire de mixité du logement, je pense que c'est totalement un leurre. Et je reviens à ce que je vous disais en début d'émission par rapport aux villages où il fait bon vivre, disons-le clairement, ces villages où il fait bon vivre, c'est les villages de la non-mixité urbaine et de l'entre-soi. Alors, je ne porte aucun jugement sur ce que font les gens qui habitent dans ces logements, je ne fais que constater une réalité et les mots, encore une fois, les mots pour le dire, les villages où il fait bon vivre, ben c'est les villages de la non-mixité urbaine. Donc vous tirerez les conclusions que vous voulez. Je vous dis à la semaine prochaine.